Je vous invite à ouvrir la Bible sans plus tarder dans le livre de la Genèse, au chapitre 15 et au verset 13. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras entré après une heureuse vieillesse. Amen. Amen. » Je voudrais prendre avec ce texte conscience avec vous d'une chose, c'est que ce que Dieu dit, ça s'accomplit toujours. Vous êtes d'accord avec moi? Tout ce que Dieu dit, ça s'accomplit. J'ai pris très grand plaisir à partager avec vous samedi soir pour la jeunesse et dimanche après-midi ce fait que les prophéties bibliques sont vraies et qu'elles s'accomplissent toutes et toujours. Il n'y a pas un détail d'une prophétie de Dieu qui ne puisse pas arriver à son terme, qui ne puisse pas arriver à se passer, à se dérouler comme c'est écrit exactement, parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu est fidèle. Et ce que Dieu a dit, particulièrement dans ce qu'on a lu à Abraham, il a dit à Abraham, voilà, tu auras une postérité nombreuse, tout cela, mais cette postérité, elle va être asservie, esclave, à un autre peuple, dans un pays étranger, pendant quelque temps, hein, 400 ans, vous avez vu, 400 ans. Mais voilà, au bout de 400 ans, je vais délivrer ce peuple, il va sortir et il va être riche, il va sortir avec de grandes richesses. Et ceux à qui ils auront été asservis vont être jugés pour la méchanceté qu'ils auront eue envers ta postérité. Croyez-vous que Dieu a honoré sa parole? Vous l'avez lu plus loin? Je ne sais pas si vous avez lu toute la Bible, en tout cas le livre de l'Exode aussi. Il est dit, eh bien, que ce que Dieu avait prophétisé, c'est arrivé. Il est dit aussi sur Abraham, « Toi, tu iras en paix avec tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. » Là aussi, c'est exactement ce qui est arrivé à Abraham. Abraham, puisqu'après ça a changé, il est mort vieux, il est mort rassasié de jours, après une heureuse vieillesse, et voilà, aujourd'hui, il est le père des croyants. On se souvient de lui, il est un exemple pour nous, un exemple de foi. Et j'aimerais qu'on parle ce soir de quelque chose de surnaturel. Quand vous avez présenté les chants, M. Gau, j'ai pensé, quand vous avez parlé du surnaturel, hein, à ce qu'on va voir ce soir encore. Dieu va mettre en place tout un plan, un projet pour sortir ce peuple d'Égypte. Dans Exode, au chapitre 3, on va faire une lecture et je prends quelques secondes pour placer le contexte, pour planter un petit peu le contexte qui est autour de cette lecture que l'on va faire. La fin du livre de la Genèse, le chapitre 50, termine par eh bien, la famille de Joseph qui vient le rejoindre en Égypte. Vous vous souvenez ? Dieu a changé le mal en bien, alors qu'il y a une famille dans le pays qui est promis. Eh bien, la famille d'Abraham, la famille de Joseph maintenant, avec Jacob le père, ils vont aller tous en Égypte et ils vont trouver là de la nourriture parce que Dieu avait pris soin de préparer le chemin par la vie et l'histoire, le récit de Joseph. Et voilà qu'on passe au livre de l'Exode et au premier chapitre, il est dit que Joseph meurt, Pharaon meurt aussi. Et il vient un nouveau pharaon, un nouveau roi sur l'Égypte qui n'a pas connu Joseph. Et il commence à voir que le peuple hébreu, eh bien, commence à se multiplier, à grandir, et il a rempli tout le pays. Et le roi égyptien, il a peur, parce qu'il se dit, s'ils sont nombreux et qu'un jour quelqu'un nous attaque, comme ils sont nombreux, ils vont se ranger du côté de nos ennemis, et ils risquent de nous combattre avec et de nous tuer. Alors ce qu'on va faire, on va mettre une oppression sur ce peuple, on va lui mettre des travaux, et ils vont construire comme cela toutes sortes de villes où on va stocker la nourriture, ils vont faire un grand travail. Mais le peuple, plus on l'a servi, plus il grandit. Et Pharaon va encore se poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Il va aller encore dans quelque chose de plus dur, il va rendre de plus en plus esclaves avec de plus en plus de travail sur le peuple hébreu, et ils vont être asservis. Il va y avoir un travail très dur à faire, des briques à faire pour faire toutes sortes de monuments immenses et grands, toutes sortes de choses, de bâtisses, de villes. Et le peuple hébreu va être malmené. Tout ça, ça ne va pas durer juste 5 ans. Ça ne va pas durer jusque 10 ans. Tout ça, ça va aller jusqu'à 400 ans. 4 siècles. 4 siècles où Dieu paraît comme ayant disparu. Le peuple hébreu est là, et même s'il est béni parce qu'il grandit, etc., c'est bizarre, il y a comme une oppression qui grandit sur lui. Et le peuple va se retrouver dans une situation où il n'est que esclave, il ne peut plus rien faire. Malmené, il y a les fouets, il y a toutes sortes d'histoires. Si vous allez en Égypte, vous allez voir un peu, comment on dit, les hiéroglyphes, c'est comme ça qu'on appelle, les hiéroglyphes, et vous voyez le peuple égyptien qui oppresse le peuple hébreu, qui oppresse, et tous les coups de fouet, toutes sortes de travail qui va être fait. Et le peuple souffre au point qu'il va crier à Dieu. Et le comble à tout ça, c'est qu'il multiplie quand même. Alors, le roi Pharaon va se dire, mais le seul moyen d'arrêter tout ça, c'est de quoi faire? Qui se souvient ce qu'il faut faire? Tuer les bébés, tous les garçons, les bébés mâles, les garçons. Et il va demander à deux sages-femmes particulièrement, il va leur dire, voilà, quand vous allez accoucher les femmes hébreux, eh bien, vous allez voir, si c'est un mâle, vous le tuez. Si c'est une fille, eh bien, vous la laissez vivre, elle a le droit de vivre. Et seulement, voilà, les sages-femmes, elles craignent Dieu. Et à cause de cela, eh bien, puisqu'elles ne vont pas faire ce que le roi va dire, elles sont bénies de Dieu et leur famille est bénie et grandie. Mais le roi Pharaon va se fâcher, il va les appeler, elles vont donner une excuse. Et lui, il va dire, puisque c'est comme ça, c'est pas vous seulement qui allez le faire, mais je vais dire à tout mon peuple à moi. Et tous les Égyptiens auront l'autorisation et le devoir, lorsqu'ils verront un bébé hébreu, de regarder si c'est un garçon ou une fille. Et si c'est un garçon, qu'est-ce qu'il faisait? Il le jetait où? Dans le Nil. Il le jetait dans le Nil. Chapitre 2, Dieu va susciter un sauveur. Qui est-il? Moïse. Sauveur. Lui, il n'est pas jeté dans le Nil pour s'y noyer, il est posé sur le Nil. Épargné uniquement par une caisse, un panier, qui sera dans lequel il va être déposé. Il va être abandonné quand même sur le Nil. Et il y a sa petite sœur ou sa sœur qui va être là, en tout cas, qui va suivre. Et voilà que la fille de Pharaon va aller se baigner. Et pendant qu'elle se baigne, elle voit cette caisse, elle voit ce panier-là. Elle va dire à une de ses servantes, bah, tu vas aller le chercher, s'il te plaît. Elle ouvre un bébé. Si c'était comme ça, hein, les femmes, elles seraient heureuses. Hein, pas besoin de l'accouchement. D'un coup, un panier qui arrive. Et elle regarde, ah, c'est un Hébreu. Mais elle a une compassion pour lui. Elle est émue, Dieu veille sur cet enfant, sur ce petit garçon qui plaît à Dieu et elle va le prendre à sa charge. Et comme il y a la sœur qui est là, elle dit, est-ce que tu veux que j'aille chercher quelqu'un pour s'occuper, une nourrice, hein? Elle ne dit pas que c'est la famille, bien sûr, mais elle sait que c'est un Hébreu quand même. Et elle lui dit, va chercher. Et puis elle revient et dit, voilà, il y a cette femme qui est prête à s'en occuper. C'est super, hein? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, ok, et même, je vais te donner ton salaire. Super, hein? La providence de Dieu, comme quoi, même si on a l'impression que Dieu n'est pas là, je peux vous dire que Dieu a le regard sur nos vies. Et si on est prêt à lui faire confiance, et en tout cas, nous, on reste dans ses voies, puisque le peuple hébreu n'avait rien à se reprocher, ils n'ont rien fait de mal pour avoir 400 ans d'épreuve, juste ils étaient bénis de Dieu, ils multipliaient, et il y a eu la jalousie, il y a eu l'oppression, et voilà que cette famille a trouvé grâce aux yeux de Dieu, ce bébé va être élevé par sa maman, au milieu de ses frères et sœurs, et quand il est grand, par contre, il va être rendu à la fille de Pharaon, et elle va le prendre. Il est dit comme son fils, pour son fils. Je pense que Moïse sait qu'il n'est pas égyptien. Puisqu'au bout d'un moment, à 40 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se sentir concerné, il choisit, non, je ne suis vraiment pas égyptien, je veux aller vers les miens. Il va vers eux et il commence à réfléchir à comment peut-être il peut les aider, puisqu'à un moment, il voit un égyptien qui s'en prend à un hébreu. Ça devait être monnaie courante, hein? Parce que de partout. Mais à ce moment-là, il prend conscience et il dit, comment je peux faire? Il est dit, regarde à droite. Il regarde à gauche, personne, il croit que personne ne le voit, et puis il va se saisir de l'Égyptien, il le tue, il le cache dans le sable. Ni vu ni connu, on continue. Et le lendemain, il voit deux Hébreux, cette fois-ci, qui se disputent. Mais pourquoi vous disputez-vous? Qui t'a établi chef et juge sur nous? On lui répond. Tu veux me tuer comme tu as fait hier à l'autre? Il a dit, où je suis révélé, je suis dévoilé. Il dit, puisque c'est comme ça, je vais sûrement avoir des soucis. Et voilà qu'il est écrit, Pharaon n'a fait que de tenter de le tuer. Il a cherché, à partir de ce moment-là, il a cherché à le tuer. Au point que Moïse a dû fuir dans le pays de Madian. Et il est allé à un endroit où il a été accueilli par un sacrificateur de Madian. Et là, il s'est installé, il a choisi de demeurer là. Au chapitre 3, il est dit que depuis un moment, Moïse est hébergé, et on voit le début, on va lire le chapitre 3, restez concentrés, 22 versets, mais je suis sûr que vous avez déjà lu plus. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse !» Et il répondit « Me voici !» Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens. Voici, les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. » Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis, ou celui qui est. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, « Celui qui est m'envoie vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras aux enfants d'Israël, ainsi aux enfants d'Israël, « L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Va !» Rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu, et j'ai vu ce que vous ont fait en Égypte, et j'ai dit, ce qu'on vous a fait en Égypte, et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Héviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix, et tu iras toi, et les anciens d'Israël auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire des 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas aller si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, je vous laisserai aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Amen. Amen. J'aimerais m'attarder ce soir tout particulièrement sur le buisson ardent. Quelque chose de surnaturel. Un buisson qui est là, qui prend feu, mais qui ne se consume pas. Il n'y a que Dieu pour faire ça, hein? Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'allumer un feu, c'est forcément qu'il faut un carburant et puis il faut l'entretenir, rajouter si on ne veut pas qu'au bout d'un moment ça s'éteigne. Mais là, il y a quelque chose d'exceptionnel, il y a un buisson qui est là, sur la montagne de Dieu, près de la montagne de Dieu, il y a un buisson qui brûle et puis il ne se consume pas. Quelque chose d'incroyable. C'est ce qui va attirer l'attention de Moïse qui lui était en train de faire paître le troupeau de son beau-père Jéthro, et il va d'un coup être attiré, il va regarder. Et comme probablement qu'il a le temps, probablement qu'il peut s'arrêter, il va aller parce que c'est quand même curieux. Quelque chose de surnaturel. Un buisson qui brûle mais qui ne se consume pas. Un feu qui est là, en plein désert. Ce n'est pas trop chose étonnante puisque dans le désert, ça arrive quelquefois que des buissons s'enflamment mais ils se consument. Tandis que là, le buisson s'enflamme mais il ne se consume pas. J'ai lu un peu les hypothèses que le monde donne à cette manifestation. Il y a de tout. Et de n'importe quoi. Hein? On pourrait passer la soirée à décortiquer les hypothèses, j'ai pas du tout envie, mais les gens cherchent des explications, ne croient pas au surnaturel de Dieu, mais moi, je crois, je l'ai vécu personnellement dans ma vie, et je crois que Dieu va encore faire des choses surnaturelles dans notre vie. J'aimerais qu'on regarde à ce buisson, et particulièrement aux 3 situations qui sont autour de cette affaire. Le buisson marque un tournant dans trois situations. La première, la situation d'Israël, un peuple en Égypte asservi et comme abandonné. Deuxièmement, la situation de Moïse, un homme qui veut bien faire, mais qui se trouve bloqué, qui n'est pas compris, qui est parti et qui est là en train de paître le troupeau de son beau-père. Un simple berger qui est là en train de passer le temps. 40 ans sont passés, il a presque 80 ans, autour de 80 ans. Et puis, la situation aussi de Dieu, qui veut de toute éternité bénir les hommes, qui a des projets de paix, de félicité, non de malheur, avec de l'avenir pour les gens, comme il le dira dans Jérémie, et qui pourtant, à certains moments, fait silence. Trois situations, et ce buisson ardent va mettre un tournant dans tout cela. Premièrement, la situation d'Israël. Il est dit que du milieu du feu, une voix se fait entendre. Et Dieu appelle Moïse, Moïse. Oui, je suis là. Ôte les souliers de tes pieds. Israël ne voit pas cette affaire, il en entend parler plus tard. Israël, lui, il est dans une situation horrible, qui me rappelle un peu une situation qui est dans un autre passage de la Bible, la situation de Shédrach, Meshach et Abednego. Il y a, j'ai relevé, trois autres situations où il y a du feu qui ne consume pas dans la Bible. La première, la situation de Daniel, des amis de Daniel, pardon, Shadrach, Meshach et Abednego, des hommes qui avait choisi de suivre Dieu, de lui obéir, de ne pas se souiller avec les choses du monde, avec les choses de l'oppresseur, du roi Nebuchadnezzar, les idoles, la viande sacrifiée aux idoles, tout ça. Des hommes qui avaient choisi de plutôt chercher l'approbation de Dieu que plutôt faire comme tout le monde. Trois hommes qui avaient aussi choisi de ne pas se prosterner devant la statue que le roi avait levée. Vous vous souvenez de cette affaire au début du livre de Daniel, hein? Ces hommes, ils sont là, ils disent non. Et le roi dit, mais si vous ne prosternez pas, je vous ferai prendre, je vous ferai jeter dans la fournaise ardente. Et qui est le Dieu qui va vous délivrer? Eh bien écoute, notre Dieu, il est capable de nous délivrer, ils vont dire. Notre Dieu, il est capable. Et même s'il ne le faisait pas, nous, on ne se prosternera jamais devant ta statue. Ni une ni deux, le roi, il appelle les serviteurs, ils le prennent, ils ouvrent la fournaise, les serviteurs brûlent, en même temps qu'ils jettent les trois amis. Trois amis tombent au milieu de la fournaise, une fournaise extraordinairement chauffée, hein, quelque chose de fou. Ils tombent et pourtant ils ne brûlent pas. Mais il n'y a pas trois personnes dedans, il y en a quatre. Et j'ai pensé de suite à cette image, ce buisson qui représente l'humanité, parfois des épines, du péché. C'est nous, hein. On est comme des buissons avec des épines. On est là alors qu'on devrait être une belle plante pour Dieu. Le péché fait de nous de simples buissons pleins d'épines, le péché. Jésus a reçu une couronne d'épines, hein. Vous avez vu? Le péché qui fait souffrir. Le péché qui s'y frotte, s'y pique. Vous avez vu la nature humaine, des fois? Et ce buisson est là, comme cette humanité, les hommes, et ce feu qui est là au milieu, l'épreuve. Dans la parole de Dieu, on voit que le feu est comparé quelquefois à l'épreuve. Par exemple, Pierre va dire, lorsque vous êtes dans la fournaise de l'épreuve, ne voyez pas cela comme quelque chose d'extraordinaire. Et Israël est dans cette fournaise depuis 400 ans, comme abandonné. Longtemps peut-être ils ont prié, longtemps ils ont crié, longtemps ils ont pleuré, ils se sont peut-être plaints, ils ont crié à Dieu, ils ont cherché du secours, ils ont cherché le secours de Dieu, ils ont attendu, il y avait bel et bien une promesse qui était là, 400 ans, est-ce que ça va vraiment durer 400 ans? Et ils attendaient, et ça allait de mal en pire, et maintenant on s'en prend même au bébé, quelque chose d'horrible. Et ils sont là dans une épreuve. Ils n'ont rien fait, injuste, comme ces trois amis. Et à ce moment-là, qu'est-ce que dit Dieu? J'ai dit, voilà, je vais t'envoyer toi, Moïse, pour aller délivrer mon peuple. Et peut-être que quelqu'un ce soir est comme un peu le peuple d'Israël. Dans sa vie, il cherche à honorer Dieu. Dans sa vie, il ne fait rien de mal. Même quelquefois, il voit la bénédiction de Dieu, puisqu'il y a certaines choses qui vont bien, mais il y a une épreuve qui est dans sa vie, une épreuve qui est dans votre vie, qui est là un peu comme injuste, qui est comme quelque chose que vous supportez, vous attendez, vous vous impatientez, et vous aimeriez tant en sortir, tant être délivré, et puis ça tarde. Et comme on l'a dit encore pendant les chants, la solution est toujours la même. Le sauveur, il n'y en a pas deux, c'est Jésus-Christ. Et au travers de la croix, Jésus a obtenu tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse être béni. Il a expié les péchés. Et on n'a pas à aller chercher une autre religion, on n'a pas à se décourager. Il ne faut surtout pas abandonner, il faut continuer à persévérer. Ce soir, peut-être, ce premier point exhorte quelqu'un à faire confiance au Seigneur, à dire « Oui, je sais que je suis dans l'épreuve, je sais qu'il y a une difficulté. » On a entendu un don spirituel tout à l'heure qui disait « Tu souffres, tu ne comprends pas, mais tiens bon, attends-toi au Seigneur, fais confiance au Seigneur. » Et le Seigneur va encore exhorter la même personne ou une autre ou d'autres, plusieurs, à dire « Mais peut-être que tu es dans une épreuve, peut-être que tu as des difficultés dans ta vie, peut-être que c'est au niveau de la famille, du travail, des enfants, il y a quelque chose qui est là, peut-être une maladie, j'en sais rien. » Et le Seigneur est là et dit « Je voudrais que ce soir soit comme un buisson ardent pour ta vie, le départ de quelque chose de nouveau. » Qu'est-ce que Dieu a fait dire au peuple? Il a dit « Voilà, première chose, prends espoir et crois. » Croyez. Et voilà qu'au verset 30 et 31, il est dit, Aaron apporta, du chapitre 4, Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et il exécuta les signes aux yeux du peuple, et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait vu les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et qu'ils s'inclinèrent, et se prosternèrent. La première chose que Dieu veut nous exhorter à faire ce soir, c'est de faire comme ce peuple qui a vu les choses de Dieu, qui a entendu les paroles de Dieu rapportées par Aaron, qui lui-même les avait entendues de Moïse, qui lui-même les avait entendues de Dieu. Et ils vont croire les paroles. Et peut-être que c'est un simple pasteur qui parle ce soir, mais la parole de Dieu dit, garde espoir, persévère dans ta foi, continue, attends-toi au Seigneur. Si la promesse tarde, crois, continue, confie-toi dans le Seigneur. Attends-toi au Seigneur, car Dieu, ce qu'il dit, ça s'accomplit toujours. Il a dit qu'il prendrait soin de toi. Peut-être avez-vous reçu une promesse dans votre cœur, et puis le temps fait qu'elle s'étiole, elle passe, Abraham a tenu bon. Il a gardé la promesse, et c'est arrivé. Prends espoir et crois. Deuxièmement, déclare que tu veux adorer le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur, souhaite adorer le Seigneur, commence, n'attends pas, et que tu veux obéir, et que tu veux sortir. Peut-être que dans votre famille, quelqu'un ne vous comprend pas, et dites-lui, moi, la seule chose que je veux, c'est obéir au Seigneur. C'est l'adorer. Moi, je veux que ma vie, elle lui serve pour l'adorer. Elle lui serve à lui. C'est ce que Moïse va faire. Il va aller vers Pharaon, avec les anciens. Il va dire, laisse le peuple de Dieu aller sortir, car il nous est apparu. Et il faut qu'on aille l'adorer, qu'on sorte, qu'on aille le servir. Et peut-être que c'est un époux, que c'est une épouse qui ne comprend pas. Et bien sûr, il faut l'aimer, bien sûr, il faut toute la sagesse de Dieu, parce qu'il y a bien des indélicatesses qui sont faites des fois et qui ne permettent pas à Dieu de toucher le cœur du conjoint. Mais je crois qu'avec sagesse, avec amour, toujours dire, tu sais, je t'aime de tout mon cœur, je veux te rendre heureux aussi, je veux être une épouse, un époux modèle, mais en même temps, n'oublie jamais que mon désir, c'est d'adorer Dieu et de le servir. Car je sais que c'est comme ça que la bénédiction sera sur mon foyer. Je sais que c'est comme ça que je serai heureuse. Et tu veux d'une épouse, un époux, une épouse heureuse ou pas ? Alors comprends, s'il te plaît, comprends, comprends-moi. Je connais une femme qui a été persécutée comme ça pendant des années par son mari. Il était chef commissaire de police. Toute la journée, il voyait de la violence, il réglait des affaires avec de la violence, il voyait des meurtres, des choses comme ça. Et quand il rentrait à la maison, il y avait sa femme qui lui disait « Je pars au culte le dimanche matin » ou les soirs de la semaine. Il disait « Je pars à la réunion ». Et il lui disait « Non, tu pars pas ». Elle dit « Bon, la semaine, ok, mais le dimanche, je veux le donner à mon Seigneur et j'irai ». Et il dit, quand tu rentres, je te tape. Elle dit, mais si tu veux, tu me tapes, tu as le droit, je te laisse faire. Mais en tout cas, moi, je veux rentrer. Elle lui disait, tu as le droit, bien sûr. Nuance. Hein. Et elle partait, et quand elle revenait, elle se disait toujours, ça y est, je vais me faire taper. Et elle rentrait, et comme par hasard, il était apaisé. Par contre, il lui disait, tu vois la table qui est là, je ne veux pas manger ici, tu vas la mettre dans telle autre pièce. Et elle prenait toute seule, elle se portait la table et elle allait la mettre dans l'autre pièce. Et quand elle avait fini, il lui disait, tu reprends la table et tu la mets là où elle était, finalement je change d'avis. Et elle a fait ça pendant des années. Elle n'a jamais rien dit. Elle a eu du courage, elle a eu la force de Dieu, je pense, pour le faire. Et au bout d'un moment, son mari lui a dit, comment ça se fait que tu m'obéis toujours sans râler? Comment ça se fait? Elle lui a dit, tu le sais d'où ça me vient. Et elle a dit, ben, je viens avec toi. Il est parti avec elle et Dieu l'a touché son cœur. Et peut-être quelqu'un est dans une épreuve comme ça, il ne comprend pas, il ne sait pas comment faire. Faites confiance au Seigneur, accrochez-vous et ne changez pas de conduite et de route. Troisièmement, on voit qu'ils ont prié et regardé Dieu faire. Parce que quand ils ont commencé à parler à Pharaon, Pharaon a dit, ben, ça sera encore plus dur, on ne vous amènera plus la paille. Et vous allez faire les mêmes briques, le même nombre, etc. Mais la paille en plus, allez chercher vous-même. Oh, ils sont venus vers Moïse, ils ont dit, mais comment ça se fait? C'est pas normal, etc. Et Moïse a dû intercéder, prier. Sachez que Jésus intercède pour nous et qu'il prie pour nous, pour qu'on tienne bon et pour qu'on soit délivré. Et Jésus est toujours exaucé. Moïse a été exaucé et petit à petit, les choses sont avancées. Il y a eu des moments difficiles, mais finalement, le peuple a sorti. Et puis, Dieu va dire, vers la fin de l'épreuve, vers la fin de ce moment, préparez-vous, qu'il se prépare, qu'il prépare un repas, qu'il se saigne les reins, qu'il le mange en ayant les reins sains, etc. Vous allez vous préparer, vous allez manger et vous allez vous lever. Et peut-être que l'épreuve, elle est là, vous voyez quelque chose bouger ou rien du tout. Le Seigneur vous dit, mange, nourris-toi de la parole de Dieu, nourris-toi de la présence de Dieu. Lève-toi, quand tu entendras, ça y est, vous pouvez sortir, l'épreuve est finie. Tu te lèveras et tu sortiras de ton épreuve. Et tu pourras dire avec le peuple d'Israël, Dieu est fidèle, Dieu est bon, il tient ses promesses à toujours. La deuxième situation que je voudrais voir avec vous, c'est la situation de Moïse. Situation de Moïse, cet homme qui, à sa naissance, eh bien, on a voulu le tuer. Quand il est né bébé, le peuple d'Égypte avait cet ordre de jeter les bébés au Nil, donc on veut le tuer à sa naissance. 40 ans, il veut faire du bien, on veut encore le tuer pour ce qu'il a fait. Il s'y est mal pris, certes. Abandonné petit, il a failli être abandonné. Finalement, même s'il est revenu, il va chez les Égyptiens, il ne se sent pas égyptien. Il va chez les Hébreux, il n'est pas accueilli comme l'un des leurs, quitte à établi chef et juge sur nous, etc. Rejeté par tous, obligé de fuir, il va dans un endroit, il va appeler son fils d'un prénom qui veut dire étranger. Même là où il va, où il s'installe, parce qu'il est bien accueilli par Jéthro, il va appeler son fils et il va lui-même se sentir étranger. Et qu'est-ce qu'il va faire pendant 40 ans? Il va rester là, berger, à garder les brebis. Cet homme, eh bien, ça fait 40 ans peut-être qu'il est là et qu'il passe son temps à aller dans les champs et c'est toujours la routine hein, qui s'installe. Chaque jour, il se lève et il voit les brebis, il est là, il prend soin, il les amène toujours par le même chemin, probablement qu'il connaissait très très bien la route qu'il empruntait, 40 ans qu'il l'a fait, 40 ans qu'il voit les mêmes choses, peut-être que de temps en temps, il y avait un scorpion ou un serpent qui se jetait sur une de ses brebis, il était obligé d'intervenir, peut-être qu'une brebis se faisait mal de temps en temps, mais c'était la routine, le travail. Et si, à un moment, il avait eu en tête peut-être de délivrer son peuple, de venir en secours à ses frères, là, il avait complètement perdu cet espoir de pouvoir servir à quoi que ce soit. Il a 80 ans, imaginez-vous. 80 ans, il se retrouve en plein désert, à faire ce qu'il fait toujours depuis 40 ans, à faire ce qu'il fait tous les jours, sûrement qu'il partait à telle époque de l'année, il allait, etc., il faisait tel parcours, il revenait, rien de bien extraordinaire, sa vie était comme un ronron, métro, boulot, dodo. Et c'était comme cela, c'était sa vie, c'était comme ça maintenant. Jusqu'à la retraite, peut-être qu'un jour il allait dire « ça y est, mon temps est fini, je m'arrête, plus berger, j'ai plus la force, je vais rester dans ma tente et je vais mourir ». C'était ça ce projet un petit peu. Il avait trouvé une femme qui lui avait été donnée par Jéthro, Séphora. Il avait eu un enfant, au moins un fils, et puis il est là, sa vie se passe. Lui qui avait eu un moment pour idée de secourir le peuple, mais qui n'avait pas pu puisqu'il le faisait de la mauvaise manière. Et il ne connaissait pas encore Dieu. Et alors qu'il est là, il est dans cette montagne, dans ce chemin, rien d'extraordinaire. D'un coup, il y a un truc bizarre qui se passe, excusez-moi pour l'expression. Il y a quelque chose, un buisson ardent qui se met à brûler. Et il va être interpellé, il va s'approcher. Et voilà que Dieu va faire, au travers de cette histoire du buisson ardent, va faire un appel sur sa vie, un nouvel appel. Croyez-vous qu'à 80 ans, on peut recevoir un appel de Dieu ? On le croit parce qu'on sait l'histoire, mais est-ce que dans votre vie, vous qui approchez des 80, c'est ça, c'est concret. Est-ce que vous qui approchez des 80, vous pouvez croire qu'encore aujourd'hui, Dieu peut lancer un appel sur votre vie à quelque chose de particulier? Ah, peut-être pas à délivrer le peuple d'Égypte, parler à Pharaon, etc. Mais peut-être quelque chose de similaire dans la portée, dans le cœur, dans la volonté de Dieu. Peut-être quelque chose de discret, mais tout aussi important, parce que c'est Dieu qui mandate pour le faire. Moïse, de son ronron, de sa vie qui avait fini comme ça presque, eh bien va se retrouver interpellé par Dieu, c'est toi que je veux et tu vas aller. Il pourrait dire, tu sais, Seigneur, il aurait pu dire comme ça, Seigneur, tu sais, on a voulu me tuer. À deux reprises, dans deux périodes dans ma vie, j'ai failli mourir. J'ai été élevé par ma mère, mais pas considéré comme un vrai Hébreu, pas considéré comme un vrai Égyptien. Moi-même, je ne savais pas de quel côté me positionner. Quand j'arrive à 40 ans, voilà que je veux aider mon peuple, on me rejette. J'ai déjà essayé, il aurait pu dire, j'ai déjà essayé d'aider mon peuple. Peut-être que s'ils avaient bien réagi, celui que j'avais délivré la première fois, il aurait pu le raconter aux autres et leur dire, et si on le choisissait comme meneur de troupes, Il connaît les failles de l'ennemi, peut-être, je ne sais pas. Peut-être qu'il aurait pu faire une milice, une résistance, j'en sais rien, mettre une sédition, une révolte. Peut-être qu'il s'attendait à ça, Moïse, j'en sais rien du tout. Il aurait pu répondre à Dieu, mais j'ai déjà essayé, et ça n'a pas marché. Moïse, il ne dit pas ça. 80 ans. La seule chose qu'il dit, c'est « Qui suis-je ?» Première question, « Qui suis-je » Vous avez vu ?« Qui suis-je pour aller parler à Pharaon ?»« Qui suis-je ? » ?»« Je suis un étranger. » À Madian, je suis un étranger en Égypte, je suis un étranger parmi mon peuple. Je suis qui, moi ? Qui je suis ? Et le Seigneur va répondre par quelque chose d'encore plus important et de frappant. Il ne répond pas qui tu es, même s'il lui dit « Je connais ton père, je suis le Dieu de ton père ». Imaginez-vous, pour quelqu'un qui a vécu cette période, dit « Je connais ton père ». Mais il ne va pas lui dire « Je sais qui tu es », c'est-à-dire « Tu es un hébreu à moitié, j'en sais rien ». Il ne va pas commencer à tergiverser là-dessus. « Tu es quelqu'un de capable, tu es beau, tu es bien, je ne sais pas ». Il va lui dire « Ne t'inquiète pas, parce que c'est moi qui t'envoie ». Elle est là la clé. Peut-être quelqu'un se dit depuis quelque temps dans ma vie, ça ne bouge plus trop. Je suis rentré dans un système répétitif, j'ai bien planifié ma journée, ma semaine. Le dimanche matin, je vais à l'église. Une fois dans la semaine, je vais à l'église. Je lis mes 3 chapitres par jour. Je prie 1 heure par jour. Et c'est très bien comme ça. Oui, je suis un bon chrétien. Tout va bien, tout roule. Je suis honnête. Je suis à ma place. Je fais ce que Dieu me demande. Et c'est bien comme ça. Et j'aimerais nous rappeler que Dieu veut plus qu'une religion. Dieu veut plus que quelque chose de bien planifié pour lui. Dieu peut-être voudrait mettre un coup de pied dans la fourmilière, vous voyez ? Peut-être que votre vie, depuis un temps, vous êtes là, vous priez, vous venez, vous vous dites bonjour à tout le monde, etc. Vous avez un petit service dans l'église et tout va bien. Et pourquoi pas aller plus loin avec le Seigneur. Croyez-vous que Dieu veut encore que vous fassiez des progrès? Moi, je crois que Dieu veut que je fasse des progrès. Et est-ce que nous, on l'a à cœur? Est-ce qu'on croit que c'est encore possible de faire des progrès? Est-ce que j'ai soif encore de plus de Dieu? Est-ce que j'ai soif de plus me donner à Dieu, de plus vivre de choses avec Dieu? C'est vrai. Des choses naturelles. Aller à l'église, entendre un bon sermon, entendre des beaux chants, tout ça, c'est bien, mais ce n'est pas ça le surnaturel de Dieu. Ce n'est pas ça. Ça va plus loin, des expériences quotidiennes, des expériences avec le Seigneur, vivre des choses avec Dieu, et puis vivre des choses parce que je fais ce que Dieu me demande. Et est-ce que je crois encore que c'est possible pour moi de vivre des choses avec Dieu, de gagner plus de Dieu, de vivre plus avec Dieu, de pouvoir servir encore plus le Seigneur ? Ou est-ce que je me dis, non, je suis plus proche de la retraite que de ma naissance, je suis plus proche de la fin que du début, etc. Est-ce que vous croyez, tous on est concernés, même le jeune, est-ce que je crois que Dieu m'appelle à plus que ce que je vis maintenant et que c'est possible ? Il ne faut pas avoir la folie des grandeurs non plus, mais est-ce que je laisse Dieu interpeller mon cœur ? C'est ça. Je suis sûr que Moïse devait y penser à son peuple. Il dit, je suis un étranger dans ce pays. Je suis sûr que Moïse, il devait se dire, mais pourquoi Dieu n'intervient pas ? Si le Dieu de mes pères, si le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob existe, pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas ? Est-ce qu'il ne peut pas envoyer quelqu'un ? Moi, maintenant, je suis trop vieux. Peut-être qu'il se disait ça. Et quand Dieu lui dit, je t'envoie, il dit juste, qui suis-je ? Dieu lui répond, t'inquiète pas, c'est moi qui t'envoie. Et nous, c'est pareil, mais qui suis-je, Seigneur, pour agir ? Je suis qu'une femme dans l'église, je suis qu'une mamie dans l'église, je suis qu'un jeune dans l'église, ça fait que quelques mois que je suis dans l'église, etc. Et pourquoi le Seigneur ne vous utiliserait pas ? Pourquoi le Seigneur ne vous appellerait pas à son service ? Pasteur peut-être, missionnaire peut-être, mais pourquoi pas moniteur ? Pourquoi pas quelqu'un qui visite, qui encourage les personnes ? Pourquoi pas juste quelqu'un qui intercède de tout son cœur ? Quelque chose que Dieu vous montrera, c'est lui qui sait mieux que moi. Et l'important, ce n'est pas qui je suis, c'est qui m'envoie. Et la deuxième question est la vraie question. Au nom de qui je vais faire ça ? Tu es qui ? Comment tu t'appelles ? C'est quoi ton nom ? Parce que je vais y aller, ok, je vais y aller, mais je vais dire quoi ? C'est qui m'envoie ? Elle est là, la vraie question. Est-ce que je connais vraiment le Seigneur ? Est-ce que je connais Dieu ? Et comment je connais Dieu ? Au travers de son Fils. Est-ce que je connais Jésus-Christ ? La vie éternelle, cette vie surnaturelle, cette vie qui ne s'arrête pas que sur la terre, elle vient quand je connais. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, ton Fils. Monsieur Galifou me racontait cette chose, nous racontait lors d'un camp. Il disait, une fois dans ma vie, une seule fois dans ma vie, j'ai entendu Dieu me dire quelque chose à faire et je ne l'ai pas fait. Moi, je peux dire plus de fois. Lui, il peut dire une seule fois. Dieu m'a dit, parle à telle personne, elle va mourir. Il travaillait dans un hôpital. Parle à telle personne, elle va mourir. Il lui dit, oh, demain. Parle à telle personne, elle va mourir. Demain, 3 jours. Et puis au moment où il se dit, allez, je vais lui parler, il y va, la personne est morte. Et quand il nous le racontait, il pleurait, il dit, c'est la seule fois et ça a été la dernière fois que Dieu m'a parlé comme ça et que je ne l'ai pas fait. Et aujourd'hui, je veux faire ce que Dieu me demande. Et combien de fois Dieu nous interpelle et nous dit, plus tard, demain, juste demain. Mon fils, donne-moi ton cœur, Dieu veut notre cœur. Je vous exhorte donc à offrir vos corps, Dieu veut notre corps. Rachetez le temps, Dieu veut notre temps. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes. Dieu veut tout notre être, même notre argent. Il veut qu'on apprenne par lui à bien le gérer. Le Seigneur, il veut que tout notre être, toute notre vie soit à lui. Si on a un fardeau sur notre cœur pour quelqu'un, pour quelque chose, c'est bien possible que Dieu veuille commencer par là pour nous utiliser. Et si on a un fardeau pour les enfants, si on a un fardeau pour les mamies, si on a un fardeau pour l'église, c'est probablement par là que Dieu veut commencer pour nous. Moïse avait ce fardeau pour son peuple, il a essayé à sa manière, il n'a pas réussi. Et là, on vient au troisième point. Dieu, la situation de Dieu, ça fait 400 ans que Dieu se tait. 400 ans qu'on ne sait pas qu'un prophète a parlé, vous savez, entre Genèse 50 et Exode 3, Exode 2 même, il y a 400 ans qui sont passés. Ça fait pas mal quand même, 400 ans. Ça me rappelle Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, et Matthieu. Entre ces deux livres, 400 ans, pareil, des silences, un silence de 400 ans. Croyez-vous que Dieu ne voulait pas parler ? Dieu veut toujours parler. Dieu veut agir. Dieu veut faire des choses. Et il a cœur de se révéler, il a cœur de nous utiliser, il a cœur de nous parler. Comment est-ce qu'il le fait ? Par son esprit, par sa parole. J'ai parlé du premier point qui me faisait penser à Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Le deuxième point, le fait d'être zélé pour le Seigneur, l'affaire de Moïse qui voulait servir mais qui a peut-être perdu du temps et qui au bout d'un moment ne croit plus au service et qui est pourtant appelé de Dieu. Ça me fait penser à l'affaire de Jérémie. Jérémie va s'entendre au chapitre 1, je vais mettre mes paroles dans ta bouche. Au chapitre 29, il me semble, au chapitre 23, Dieu dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu ? Et au chapitre 20, Jérémie va dire, si je me tais, si je ne parle pas, si je dis, je vais oublier Dieu, je ne parlerai plus en son nom, c'est comme un feu dévorant dans mon cœur et je ne peux pas m'empêcher de parler. Quand Dieu nous appelle à un service, ce service devient un fardeau sur notre cœur, on sait que c'est notre part, et si on ne le fait pas, c'est comme si ça nous dévore, on se sent coupable, on ne se sent pas bien, on sent qu'on perd du temps, des fois on ne sait pas pourquoi, mais on sent qu'on est mal, on n'est pas à notre place. Un chrétien heureux, c'est un chrétien qui sert. Et Jérémie ne brûlait pas que quand il parlait de la part de Dieu, quand il était prophète, ce à quoi Dieu l'appelait à travailler. Il n'était pas brûlé par les paroles de Dieu parce que simplement il les disait. Mais au moment où il se taisait, c'est comme si lui-même était consumé à l'intérieur de lui. La troisième affaire, comme je l'ai dit, l'affaire de Dieu qui veut parler, c'est un peu cette image de l'Esprit de Dieu, la sainteté de Dieu qui voudrait tellement remplir, entourer, baptiser. Immerger quelqu'un qui est au milieu, c'est impossible. Humainement parlant, aucun homme ne peut tenir dans la présence de Dieu. Vous avez vu Moïse, comment il a eu peur quand il a compris qu'il était devant Dieu ? Ôte tes souliers de tes pieds, car ce lieu est saint. Il a peur, il détourne son visage car il craint de regarder Dieu. Pourquoi ? Parce que nul ne peut voir Dieu et vivre. Nul n'a jamais vu Dieu, c'est que des visions qui nous est dit dans la parole de Dieu. Et Moïse va être là, il va avoir peur de regarder Dieu parce qu'il sait qu'il est pécheur. Il sait que Dieu est saint. Et Dieu voudrait nous utiliser, Dieu voudrait nous sanctifier, Dieu voudrait même nous remplir de sa présence, être devant nous, nous parler, nous interpeller, nous nourrir, nous enseigner, toutes sortes de choses. Mais c'est impossible tant qu'on est pécheur et qu'on n'est pas justifié de nos péchés. Et c'est exactement ce que Jésus va faire, il va envoyer le Saint-Esprit. Et dans acte 2, des langues de feu descendront et elles ne brûleront pas ceux qui le recevront. Bonne nouvelle. Heureusement. Et Dieu, il a tellement envie d'équiper quelqu'un, d'accorder à quelqu'un la puissance pour accomplir le travail auquel il est appelé. Vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins. Et le Seigneur voudrait tellement remplir de son esprit tous les vases que nous sommes, pour que nous puissions servir efficacement. Je ne peux pas servir Dieu sans le secours du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Et de ce point de vue, avec cette circonstance, Dieu qui se tait, qui est là et qui veut enfin parler, il va y avoir cette image, un buisson, un homme, qui va pourtant être rempli de la présence de Dieu, qui va avoir une présence de Dieu palpable, puissante, la puissance de Dieu qui ne va pas le consumer parce que Dieu est un feu dévorant aussi, mais qui va au contraire le pousser, le donner du dynamisme et du zèle pour le servir. Au lieu de dévorer l'homme, la puissance de Dieu va le pousser et se servir de lui pour l'utiliser. Ce n'est pas moi qui me sers du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui veut se servir de moi. Est-ce que je vais le laisser faire ? Trois images. La première, une épreuve. Peut-être quelqu'un est dans l'épreuve. Et ce que Dieu veut faire, c'est nous sortir de cette épreuve. Le temps passe. Crie au Seigneur et attends-toi au Seigneur, car le Seigneur vient au secours de celui qui crie vers lui. C'est sûr. Et deuxièmement, ce service que Dieu appelle à chacun d'entre nous à faire. Qu'est-ce que je fais pour le Seigneur ? Pas parce que j'en ai envie ou que c'est une bonne idée et comme je veux, mais parce que Dieu veut m'appeler à faire quelque chose. Je crois que dans une église où on est plusieurs centaines de membres, Dieu peut quand même avoir quelques personnes qu'il veut appeler à son service d'une manière ou d'une autre. Vous êtes d'accord avec moi ? Il serait quand même triste qu'à Saint-Agne, il n'y ait pas de frères, de sœurs qui se lèvent pour partir en mission, qui se lèvent pour entrer dans un ministère particulier, qui se lèvent pour servir le Seigneur Jésus, tout simplement, qui répond « Me voici, envoie-moi ». Ça serait triste. Peut-être que vous avez des raisons de dire « Oui, mais moi, ma vie, elle est bien calée, j'ai essayé, ça n'a pas marché, maintenant, aujourd'hui, ma vie est bien comme ça ». Non, le Seigneur vient dire « Eh bien, tant pis pour ton âge, tant pis pour qui tu sais même pas qui tu es, ben, c'est très bien comme ça. Qui suis-je ? Je suis personne, moi. Discret. Je suis le plus petit dans la plus petite famille, etc. etc. » Ça vous rappelle quelqu'un, hein ? Mais toi, je t'envoie, vaillant héros. Oui, l'important, c'est pas qui tu es, c'est qui t'envoie. Et est-ce que je crois que Dieu peut m'envoyer ? J'ai 70 ans. Est-ce que Dieu peut encore m'envoyer ? J'ai 60 ans. Est-ce que Dieu peut m'envoyer ? À Saint-Agne. À une réunion particulièrement avec l'onction de Dieu pour pouvoir donner un don spirituel. Pour pouvoir exprimer ce que Dieu me donnera d'exprimer pour lui. Et troisièmement, Dieu, pour qu'on puisse bien le servir, il voudrait nous donner son esprit. C'était impossible tant que Jésus n'avait pas expié les péchés du monde. Et une fois qu'il est ressuscité de la croix, une fois qu'il a versé son sang, qu'il a donné son corps pour être meurtri, une fois que la croix est passée, qu'il est ressuscité, le Saint-Esprit peut enfin descendre sur toute chair pour se servir de n'importe qui pour faire l'œuvre de Dieu. N'importe qui, ça ne veut pas dire dans n'importe quelle circonstance. N'importe qui, ça veut dire sur les servantes, sur les serviteurs, sur les fils, sur les vieillards et sur toute chair. C'est ça que ça veut dire. À condition que je sois passé par la croix, à condition que je veuille obéir à Dieu. Pendant ce camp, quelqu'un qui a eu avec la jeunesse et plusieurs personnes, d'ici et d'ailleurs, ont vraiment dit « Seigneur, je veux être rempli du Saint-Esprit ». Tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un qui me le disait. Je disais « Seigneur, je veux être rempli du Saint-Esprit pour te servir et pour connaître ta volonté ». Vous croyez que ça fait quoi à Dieu ? On verra plus tard ? Mais non, de suite. Et cette personne était remplie du Saint-Esprit, saisie de Dieu, et aujourd'hui heureuse de pouvoir eh bien, croire que Dieu va l'utiliser et Dieu va se servir d'elle. Et je le crois, et Dieu veut le faire pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas réservé à quelques-uns, c'est pour tous ceux qui sont prêts à croire, qui demandent de tout leur cœur. Je conclue. Voulez-vous vous approcher du buisson ardent ? Imaginez-vous que Moïse passe à côté ? J'ai pas le temps. Bon, un autre ira voir, ou qu'il a envoyé quelqu'un d'autre. Ou bien, je sais pas, qu'il ait dit, bon, c'est pas pour moi, j'en sais rien. Imaginez-vous qu'il soit passé à côté. Israël, vous croyez que Dieu aurait dit, c'est pas grave, j'en prends un autre ? Oui, il aurait pu prendre quelqu'un d'autre, certes, mais est-ce que ça aurait pas été dommage pour Moïse quand même ? Et je crois que Dieu l'avait suscité. Comme il pouvait dire à Jérémie, je t'ai choisi dès ta naissance. Je t'ai établi prophète. L'appel de Dieu, nous, on le réalise un jour, mais je crois que Dieu le connaissait avant notre naissance. Et qui sait si Dieu ne veut pas nous utiliser, ne nous a pas préparés pour une œuvre. Il dit, j'ai préparé des œuvres d'avance afin que vous les accomplissiez. Vous savez, ce n'est pas au dernier moment que Dieu se sent surpris par une affaire. Oh, il me faut quelqu'un. Non, Dieu, il a prévu toutes ces choses. Et il appelle chacun d'entre nous. Mais Seigneur, moi, je travaille 5 ou jours, je me repose 2 jours. Désolé, c'est calé comme ça. La sagesse, il faut se reposer et tout. Oui, mais il y en a qui meurent. On fait quoi pour ceux qui meurent ? Oui, il faut se reposer, mais le meilleur repos, c'est dans le service. Et quand Dieu nous verra fatigués, notre service, ça va être de nous reposer. Et on n'aura pas de honte de ça. On va dire, mais Seigneur, je vais me reposer en priant. Je vais me reposer en écoutant le pasteur prêcher. Je vais me reposer en écoutant des cantiques, en chantant de tout mon cœur. Je ne crois pas que ce soit fatigant, ça. Seigneur, je ne veux pas dire plus tard, demain, aujourd'hui, j'entends ta voix qui m'appelle. Amen. Seigneur, tu sais combien c'est pas évident, Seigneur, de dire cela, Seigneur. Je veux que ce ne soit pas pris de la part d'un homme. Je veux que ce ne soit pas pris comme quelque chose, une leçon qui est donnée, Seigneur. Je me l'applique premièrement à moi-même et je veux te répondre, Seigneur. Oui, aide-nous à ne pas être paresseux. Aide-moi, Seigneur, à continuer à grandir, à progresser avec toi. Je ne veux pas être satisfait de là où j'en suis arrivé. Je ne veux pas être satisfait de ce que j'ai vécu. Merci pour les guérisons que tu m'as accordées dans ma vie, dans mon corps. Mais je crois encore aujourd'hui que tu peux faire des choses miraculeuses. Je te prie pour Saint-Gaudens où je vais aller, mais je te prie aussi pour toutes les situations dans lesquelles mes frères et mes sœurs ce soir sont. Je te prie pour leur vie, je te prie pour leur personne, pour leur cœur, Seigneur. Touche-le, touche-nous tous, Seigneur, afin que nous soyons interpellés par le fait que tu attends un homme, tu attends quelqu'un, tu attends une attitude de cœur pour nous délivrer, pour nous sortir d'une situation, pour accomplir tes promesses dans nos vies, pour aussi te servir de nous afin de parler en ton nom. Peut-être quelqu'un, Seigneur, a honte ce soir de parler autour de lui, dans son bâtiment, dans sa famille, dans sa situation. Seigneur, je te prie, mon Dieu, de lui redonner du zèle, de lui accorder, de réfléchir. C'est vrai que toi, tu ne nous plongeras pas, Seigneur. Tu n'es pas celui qui force les gens, mais tu proposes, tu interpelles. Et ce soir, par cette histoire de buisson, Seigneur, tu nous rappelles qu'il y a toutes sortes de circonstances, mais il y a un Dieu qui appelle tout le monde et qui veut tellement agir, qui veut tellement remplir du Saint-Esprit. Tous ceux qui sont prêts à être des vases vides d'eux-mêmes, mais remplis de toi, utiles pour toi. Seigneur, accorde-nous cette grâce d'être pardonnés pour toutes les fois où on est passé à côté de ton commandement, de ce que tu nous demandais. Donne-nous cette oreille attentive et surtout cette volonté, ce cœur qui obéit, Seigneur. Oui, être rempli du Saint-Esprit, c'est être obéissant avant tout. Et s'il y a ces langues de feu, ces langues que nous disons, ces merveilles que nous pouvons dire de toi, nous voulons aussi t'écouter, Seigneur. Nous croyons que prier, louer, c'est pas juste dire, c'est aussi t'entendre, Seigneur. Fais-nous discerner ta voix. Fais-nous discerner, Seigneur, ce que tu attends de nous et donne-nous la joie de pouvoir te servir. C'est vrai qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et nous avons reçu ce soir, donne-nous la joie vraiment de comprendre quel était vraiment ce que tu voulais nous dire ce soir, quelle était ta parole, pour pouvoir la mettre en pratique. Oui, ce buisson, cette image, Seigneur, de notre humanité, nous ne voulons pas en rester là. Nous croyons que nous sommes lavés par le sang de Jésus et que tu attends de nous maintenant quelque chose de neuf, de nouveau. Et peut-être qu'il y a un nouveau chapitre dans la vie de quelqu'un que tu veux écrire avec lui, Seigneur, que tu veux lui donner de vivre, que tu as déjà écrit d'avance. Donne-lui, Seigneur, à cette personne, à chacun d'entre nous, donne-nous de pouvoir, Seigneur, accomplir tout ce que tu as préparé pour notre vie. Tu as des projets, donne-nous de les connaître, d'en avoir connaissance et aussi d'accepter d'y rentrer, Seigneur. Qu'importe le coût, qu'importe le prix, Seigneur, parce que toi, tu as déjà payé le grand prix qui nous a sauvés. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.